Tech & Co, la quotidienne, les invités.
Fabrice Marcella nous a rejoint. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir François.
Quel plaisir de te retrouver, mon cher Fabrice.
Très heureux d'être là.
Voilà, pour tous ceux qui sont des fidèles de Tech & Co, la voix et le visage de Fabrice ne vous est pas inconnu. Précédemment, tu étais le maire du village Baïséa.
Oui, j'étais le maire du village Baïséa Paris.
Tu es resté dans la famille, mais tu es parti du côté de CLCL.
J'ai retiré mon écharpe de maire et j'ai pris mon nouveau costume de banquier. Un peu spécial quand même ce costume de banquier.
Ouais, c'est un costume un peu cool quand même.
Ah, un peu cool, mais je suis dans le monde des startups, donc... je peux le
faire. Alors, quelle est ta mission avec la banque des startups? Explique-nous un petit peu.
Bien, écoute, avant, je faisais de l'accélération de startups, mais je n'avais pas le levier du financement pour pouvoir les accompagner. Ben, désormais, j'ai le levier du financement. La banque des startups, elle vise à accompagner des startups B2B, alors business to business, donc qui s'adresse au monde des entreprises, dès la phase d'amorçage en termes de financement, mais ça accompagne également l'entrepreneur dans l'acquisition de ses biens de propriété, comme les sujets du patrimoine. Et enfin, ce que j'ai hérité, en tout cas, du village, c'est l'idée, en tout cas, qu'on peut se rendre utile auprès de l'entrepreneur, en dehors même du financement, avec des services extra-bancaires, comme ne serait-ce que la mise en relation entre des startups et des ETI clientes de la banque.
Quel intérêt pour LCL de se lancer dans cette aventure et de soutenir les startups? J'imagine qu'ils le faisaient avant, mais là, c'est peut-être plus
bien
structuré, c'est ça,
en
grâce
fait,
à toi?
Heureusement, LCL ne m'a pas attendu pour accompagner les startups. LCL accompagnait plutôt des scale-up. Oui. Et un peu moins des startups en phase d'amorçage. Et en fait, avec l'arrivée du nouveau directeur général Serge Magdelaine, Serge Magdelaine a souhaité retrouver l'ADN entrepreneurial d'LCL, parce que je ne sais pas si tu sais, mais LCL a 160 ans et accompagne des entrepreneurs, et accompagne aujourd'hui même, c'est 50% des ETI françaises. Et l'idée là, c'est de pouvoir aussi aller sur le marché des startups moins matures, donc en phase d'amorçage, au moment où l'entrepreneur commence à avoir ses premières levées de fonds et sa première traction. Et ça nécessite finalement un regard un petit peu différent sur les entreprises au moment où on va décider de financer ou pas.
Donc ton job, c'est de détecter les bonnes startups qui ont un intérêt avec LCL ou pas forcément, ou qui ont un potentiel business.
Si elles en ont, tant mieux.
Mais pas forcément.
Mais pas que.
D'accord.
Si elles en ont, bien sûr, ça a du sens. Beaucoup de mes entreprises, je les mets en relation avec d'autres collègues en interne, lorsque ça fait du sens.
Donc, tu détectes ces entreprises, ces startups, qui sont toutes jeunes. Tu les coaches.
Alors, je les coache. Elles viennent souvent me voir au départ parce qu'elles ont besoin de financement. J'ai recruté des banquiers à mes côtés, des banquiers qui ont l'habitude d'accompagner les scale-up, et des banquiers que je suis allé recruter chez BPI, qui ont plutôt l'habitude d'accompagner des startups très early. Et à nous trois, enfin, on est plutôt huit, mais avec ces trois profils très différents, eh bien, en fait, ça nous permet d'avoir un regard un peu décalé, plus start-up friendly au moment où on va analyser les dossiers.
Et LCL injecte de l'argent dans ces start-up.
Injecte, prête de l'argent, parce qu'on n'est pas investisseur, voilà, donc on va plutôt faire du non-dilutif. Et notre spécificité, c'est qu'on va accorder davantage d'importance au parcours de l'entrepreneur, qui sont ses associés, qui sont ses business angels.
Ok.
Voilà, c'est tout ça en fait, toute cette partie un peu qualitative.
Et l'histoire entrepreneuriale en fait, parce qu'il y a toujours une histoire entrepreneuriale derrière.
Il y a une histoire entrepreneuriale. Et d'ailleurs, peut-être, dernière chose, nous on s'inspire beaucoup du modèle des entrepreneurs, c'est-à-dire que la banque des startups, elle est aussi agile qu'une startup. La seule différence, c'est qu'on a la force d'un grand groupe derrière.
Et ce qui est intéressant, c'est que tous les mois, tu viendras nous voir.
Et oui.
Pour faire part un petit peu de tes recherches et de tes trouvailles.
C'est ça, exactement.
Et on est ravis. Alors, présente-nous les deux startups que tu as sélectionnées pour nous. On est dans tout ce qui touche l'environnement.
Oui.
C'est ça?
J'ai appelé ça.
Et l'énergie.
Ouais, ce sont des green tech en fait, parce que c'est un secteur qui est extrêmement dynamique, la green tech.
Et on est très bon en France là-dessus.
Eh bien, en fait, après l'IA, c'est le deuxième domaine d'activité, le deuxième secteur qui est le plus financé. Ça représente un tiers des levées de fonds cette année, en 2024. Donc tu vois, c'est extrêmement dynamique et c'est un secteur qui regroupe à la fois le sujet de l'énergie. Mmh. On va en parler ce soir avec l'une des startups qui est avec nous, qui s'appelle Ensol. Ça regroupe également tous les sujets autour de la mobilité propre. Et ça, c'est ce que va nous présenter Sensive. Et puis, après, il y a tous les sujets autour de comment je protège un écosystème, l'agriculture durable. Tous ces sujets-là sont des sujets portés par la Green Tech.
On commence par Ensol.
Paul
de Préville est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir, merci.
Co-fondateur d'Ensol et de la SunTech, c'est ça?
Exactement. Alors, Ensol, c'est pour énergie solaire. Nous, notre mission, c'est de simplifier, accélérer le passage à l'énergie solaire pour les foyers français. Donc, on fait deux choses très simples. On électrifie des foyers. Donc, on va installer des panneaux, des batteries, des bornes de recharge et des pompes à chaleur. Et on a aussi une application. Donc, c'est là où il y a beaucoup d'innovation. Une application de pilotage qui va se connecter à tous vos équipements énergétiques dans votre foyer. Et le but du jeu, ça va être de maximiser les économies d'énergie. Et la SunTech, c'est un réseau d'acteurs dans l'énergie, donc une cinquantaine de startups qui innovent en France pour accélérer l'électrification et notre futur énergétique.
Fabrice, tu disais que c'était du B2B, tes startups, et lui, c'est B2C.
Non, mais il y a un peu d'exception. Alors oui, effectivement, la règle, c'est du B2B.
On est d'accord, c'est que moi, je peux appeler Hansel pour qu'il étudie le fait que vous puissiez installer des panneaux photovoltaïques chez moi.
Tout à fait, c'est notre mission.
Ok. C'est bien.
Mais les bons dossiers, on les regarde même quand ils sont en B2C. Hein. Mais globalement, on est plutôt sur du B2B.
C'est quoi, 90-10?
Ah oui, c'est bien 90-10, oui. C'est bien 90-10, ouais.
Ok. Donc, créé en 2023, vous êtes basé à Saint-Denis. Vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce que vous êtes à quel moment en fait de votre croissance?
Alors on a fêté notre deuxième bougie. Alors le siège est à Paris, mais sinon nos entrepôts et nos équipes sont dans le sud, entre Bordeaux et Nice. On fait tout le bassin méditerranéen.
Où il y a du soleil.
Et où il y a du soleil pour commencer. Et on a annoncé une levée de fonds de 14 millions en février pour lancer nos opérations de Nice jusqu'à Bordeaux, pour lancer un service d'abonnement et pour investir massivement dans notre technologie de pilotage pour ces foyers français. Aujourd'hui on est 72, je crois, où il y a à la fois le meilleur de la tech, donc des ingénieurs, des énergéticiens, et aussi des techniciens, des couvreurs, des électriciens, comme on voit sur l'image, qui vont électrifier des foyers. C'est un business physique avant d'être un business technologique.
Oui, parce que c'est vrai que le photovoltaïque a quand même souffert d'une très mauvaise image il y a quelques années, avec des investissements qui se sont avérés catastrophiques, avec des niches fiscales, etc. Ça y est, maintenant, tout ça s'est apaisé, c'est un petit peu plus clean comme marché.
Tout à fait. Et si je dois dire une chose à l'antenne, là, c'est que le solaire, c'est génial, c'est rentable pour les particuliers qui installent. Ils vont réduire jusqu'à 50% sur la facture d'électricité. C'est durable, c'est 10 fois moins carboné que l'électricité qui est produite à travers le gaz, par exemple. Et aussi, en fait, on l'oublie, mais c'est la plus simple, la plus facile à déployer. C'est pas pour rien que le solaire, c'est la production, la source de production électrique la plus diffusée dans le monde, car les toits sont déjà artificialisés. C'est simple et c'est rapide à installer.
Ouais, avec des panneaux photovoltaïques qui gagnent en rendement régulièrement. Enfin, il y a pas mal de progrès technologiques.
Ouais, tout à fait. Après, la technologie, elle est mature, donc il faut juste la déployer.
Fabrice, notre deuxième start-up.
La deuxième start-up, elle est sur le sujet de l'automobile propre et comment on passe d'un moteur thermique à un moteur électrique, et là, plus particulièrement sur le secteur de l'automobile professionnelle.
Et Christophe Descharentenay,
voilà.
C'est ça, je l'ai bien prononcé.
Christophe Descharentenay, voilà.
Vous êtes cofondateur donc de Sensive.
Sensivi, et on est deux cofondateurs, Stéphane Durand et moi-même, tous les deux ingénieurs issus de l'automobile. Et nous, notre mission, c'est de faire des voitures électriques pas chères. Les voitures électriques, c'est bien, mais c'est souvent trop cher. Et la façon dont...
Mais comment vous craquez le truc?
On craque le truc? On part de voitures existantes. Il faut vous dire que des grandes entreprises automobiles françaises, que je ne citerai pas, ils mettent 500 millions d'euros pour faire une voiture électrique nouvelle d'investissement. Nous, on part d'une voiture existante qu'on transforme en électrique, et comme ça, on a besoin d'investir moins de 5 millions d'euros. Donc, on est capable de le faire beaucoup plus rapidement.
Vous prenez une voiture, je dis n'importe quoi, une Clio, vous enlevez le moteur et vous mettez une batterie.
Alors, on fait ça avec Peugeot Partner Citroën Berlingo.
Ah.
Ça y est, ça marche.
Excusez-moi,
notre voiture tourne.
Renault,
voilà. Donc, pourquoi on fait ça avec ces modèles? Parce que c'est des modèles qui sont très répandus dans les villes, dans les collectivités locales. Et quand vous êtes patron d'une collectivité locale, votre problème, c'est de passer à l'électrique. Mais en même temps, vous n'avez pas les budgets. Vous ne pouvez pas payer deux fois plus cher qu'avant. Et donc, avec ce système-là, vous prenez une partie de votre parc. Vous nous l'amenez, on le convertit en électrique, on met une batterie, on enlève le moteur thermique, on met un moteur électrique, une batterie, et on est parti pour l'électrique. Comme
excusez-moi, ça. Mais quand même au marché des flottes d'entreprises, en fait.
Les flottes des collectivités locales, voilà. Des entreprises.
Mais pas les particuliers. Si moi j'ai un berlingot, vous pouvez me l'électrifier.
Alors justement, on vient d'annoncer aujourd'hui un partenariat avec Car Avenue, qui est un distributeur automobile très important dans tout l'Est de la France.
Qui lui fait du B2C.
Et qui lui fait du B2C.
Ok.
Et qui va installer les kits, qui va être formé à partir de la fin de l'année, ça va être lancé comme ça.
Petite question technique, une voiture, on va dire thermique, n'a pas été conçue pour être électrique. Alors même si vous enlevez le moteur, où est-ce que vous placez les batteries? Est-ce que vous arrivez à avoir de l'autonomie?
Voilà.
Qu'est-ce que ça donne? Et puis
alors,
ça coûte
en fait,
combien ce relifting énergétique d'un véhicule?
Donc en fait, ça coûte deux fois moins cher que de fabriquer la voiture électrique neuve, équivalente. On a 250 km d'autonomie. Et en France, en 2020, il y a un cadre réglementaire qui a couvert tous ces aspects de transformation, de façon à éviter d'avoir n'importe quoi qui part sur la route. Donc là, on est bien encadré, il faut respecter des normes de masse qu'on respecte.
Et ça coûte combien?
Ça coûte 13 000 euros à peu près, après subvention. Si on est en Île-de-France, on descend en dessous des 10 000 euros.
Oui, parce qu'il y a des aides supplémentaires, c'est ça?
Et voilà, il y a des aides supplémentaires. Mais nous, tout notre business model est conçu pour être soutenable quand il n'y aura plus de subvention, parce qu'assez vite, il n'y aura plus de subvention sur l'électrique. Et on a décidé de faire assembler nos kits par Ceva Logistique, en région parisienne, enfin en région Île-de-France, de façon à être bien positionné pour le distribuer sur toute la France.
Et tu vois, dans les missions qui sont les miennes, c'est de faire en sorte que les entrepreneurs se rencontrent et pourquoi pas imaginent des deals ensemble. Et en fait, ce sont deux activités très complémentaires. Mmh. On peut recharger peut-être avec des panneaux solaires, j'imagine, ces véhicules, ou en tout cas...
On en parlait juste avant l'émission. Nous, on va mettre en place sur notre prochain modèle, alors évidemment, il faut qu'on trouve encore 4 ou 5 millions d'euros de financement. On va mettre en place...
Il a son chéquier dans sa belle chemise.
Il m'a dit qu'il avait 7 millions, là. Donc, on va mettre en place la charge bidirectionnelle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir charger la batterie de sa voiture
et récupérer l'électricité pour la
réinjecter. Et récupérer l'électricité quand on en aura besoin.
Ouais. Ça, c'est une vraie tendance dans l'électrique, hein, visiblement. Hein. Réinjecter l'électricité sur une batterie électrique pour alimenter, par exemple, une maison.
Exactement.
C'est assez intéressant. Ça s'appelle le grid de...
Ça s'appelle le V2G.
Le V2G.
Mais dans la version maison, c'est le V2H.
Voilà, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on souhaite bonne chance à ces deux startups, alors.
Oui, en tout cas, c'est deux belles pépites françaises sur un sujet... important en tout cas, compte tenu des problématiques de transition énergétique actuelle.
Accompagné par LCL et la Banque des Startups.
Voilà. Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Fabrice, on se retrouve le mois prochain.
Oui.
Voilà. Et chaque mois, en compagnie de Fabrice, on découvrira ce milieu et puis tu nous feras découvrir de startups innovantes. Merci beaucoup à Paul de Préville et à Christophe de Charentenay. Ça va ? On s'est bien sorti ?
Bravo. Ouais.
Voilà, on termine sur une note positive, comme ça. Très belle soirée, c'était un vrai plaisir que de passer encore une fois ce moment avec vous.